Europe 1.
Socrate est le plus célèbre philosophe de l'Antiquité grecque, mais en réalité, on sait bien peu de choses sur lui. Il n'a laissé aucun écrit. Ce sont ses disciples, parmi lesquels Platon, qui ont veillé à sa postérité en lui donnant une place dans leur œuvre. Socrate, c'est l'empêcheur de tourner en rond d'une Athènes en pleine crise après avoir été une cité-état démocratique très puissante. C'est l'homme qui prône la nécessité de bien penser pour bien vivre, celui qui vous tend un miroir dans lequel vous voyez vos propres défauts. Pour les aspirants à la tyrannie et le peuple en recherche de boucs émissaires, Socrate devient l'homme à abattre. Son procès est celui de la raison que les plus bas instincts veulent réduire au silence. Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast Europe 1 Studio. Socrate, vie et mort du premier philosophe d'Athènes, épisode 1, l'Athènes de Socrate. Nous sommes à Delphes dans la seconde moitié du 5e siècle avant notre ère. L'Athénien Chéréphone, l'un des disciples du philosophe Socrate, est venu consulter la célèbre Pythie, l'oracle du temple de Delphes. Là, dans le sanctuaire d'Apollon, la jeune fille choisie par les prêtres au cœur des vallons couverts d'oliviers laisse le dieu parler par sa bouche. Sa jeunesse, sa candeur et son ignorance de la politique sont les garants de sa sincérité. Une fille qui ne sait rien ne peut voir l'avenir que par le truchement des dieux. Aucune manipulation, aucune mystification n'est possible. La salle est rongée par la pénombre. Seules quelques lampes à huile jettent une lueur blafarde sur les colonnes de marbre. Dans leur halo, on distingue des volutes de fumée odorante, une fragrance âcre qui pique la gorge. Maintenant, la Pythie se balance sur elle-même comme prise d'une transe. Les voiles de sa tunique bougent mollement autour de son corps frêle. Elle émet des sons gutturaux, puis des petits cris aigus. Des mots se forment, à peine perceptibles. Enveloppée d'une crainte respectueuse, Chéréphone observe la scène sans oser s'avancer vers la Pythie. Il regarde tour à tour la jeune femme en transe et les prêtres. Ceux-ci traduisent les sons de la devineresse. Voilà ce que les dieux affirment. Parmi les hommes, aucun n'est plus sage que Socrate. Socrate voit le jour vers 470 dans la banlieue sud d'Athènes, près de la rivière Ilissos. Son quartier administratif, son dème pour les Grecs de l'Antiquité, est celui d'Allopéké. Sa famille est modeste. Son père, Sophronisque, est tailleur de pierre. Il appartient au petit monde des artisans, membres du peuple citoyen depuis la récente réforme de Clisthène qui voulait que chaque homme libre participe au gouvernement. Avec l'avènement de la démocratie, le régime des tyrans et des oligarques a pris fin. Enfin, cette démocratie ne concerne que les hommes libres, pas les femmes, ni les enfants, ni les métèques, ni les esclaves. Ça ne concerne finalement qu'un peu plus de 10% de la population. La mère de Socrate, Phénarète, serait quant à elle sage-femme. Cependant, certains historiens se demandent aujourd'hui si ce n'est pas une invention littéraire à visée symbolique, puisque Socrate est le père de la maïeutique, l'art d'accoucher de ses idées, de ses pensées par le dialogue. Comme ça, l'accoucheur est fils d'accoucheuse, la boucle est bouclée. La prime enfance de Socrate se déroule dans une période faste pour Athènes. Dézoomons un peu. Imaginez une carte de la Grèce. Si vous n'êtes pas en train de conduire, vous avez le droit de regarder une carte sur Internet. Athènes est située dans l'Attique, au nord-est de la péninsule du Péloponnèse, où se trouve notamment la mythique ville de Sparte. Pendant l'enfance de Socrate, ce pays n'est pas unifié. Il est fragmenté en cités-états qui partagent la même culture, les mêmes dieux, les mêmes croyances, mais qui se battent entre elles pour avoir l'hégémonie, c'est-à-dire être la cité la plus importante, celle qui domine les autres. Ces cités-états ne se fédèrent que lorsqu'elles sont menacées par leur ennemi commun, les Perses. Or, les Grecs sont sortis vainqueurs des guerres médiques, les guerres contre les Perses dans les années qui ont précédé la naissance de Socrate. Cette victoire inaugure une ère de prospérité qui profite à Athènes. La ville domine la Ligue de Délos, un ensemble de cités placées sous l'hégémonie d'Athènes qui mettent en commun des moyens financiers et humains en cas de nouvelle attaque perse. Chaque cité paye une sorte de redevance, le phoros, qui forme un trésor conservé dans le temple de l'île de Délos. Maintenant qu'on a une vision d'ensemble, on retourne à Athènes. Socrate grandit dans cette Athènes des 50 glorieuses pendant laquelle Périclès enjolive la ville. C'est ce grand stratège militaire qui commande la construction du Parthénon, ce temple majestueux au sommet de l'Acropole. Les travaux sont supervisés par Phidias, qui sculpte une statue monumentale chryséléphantine d'Athéna. Ça veut dire que la statue est en ivoire et en or. Une merveille que l'on peut refondre si on a besoin de liquidité. C'est bien pratique. Si Périclès est l'homme fort d'Athènes, la cité-État n'en est pas moins une démocratie. Je vous fais un petit résumé rapide des institutions. Les hommes libres, soit près de 40 000 citoyens, forment l'Ecclésia, l'Assemblée du peuple. Celle-ci vote la loi, le budget, la guerre, mais aussi l'ostracisme, c'est-à-dire le bannissement de certains citoyens. Parmi cette assemblée, on tire au sort les membres de l'Élié, les juges des tribunaux. Les membres de la Boulé, l'équivalent d'une chambre législative, sont tirés au sort dans l'Ecclésia. Enfin, les magistrats, ceux qui ont en quelque sorte des fonctions ministérielles, sont élus par l'Ecclésia. Là, il ne faut pas se leurrer, les magistrats viennent de familles puissantes et ont fait de la politique leur métier. La démocratie, c'est pas l'égalitarisme à tout craint. Néanmoins, vous voyez bien l'importance du peuple dans la démocratie athénienne. Le jeune Socrate, qui marche dans les pas de son père, commence une carrière de sculpteur. Il travaille apparemment à l'embellissement de la ville pendant la magistrature de Périclès. Il semblerait même qu'à l'entrée de l'Acropole, il y avait un groupe statuaire, des Trois Grâces, fait de ses propres mains. Il est donc habile, mais guère passionné par le marbre. En 443, Socrate a environ 27 ans. Il est alors présenté à un sophiste de passage à Athènes. Protagoras fait partie de ces nouveaux professeurs itinérants qui enseignent l'art de bien parler aux enfants de l'élite pour une forte somme d'argent. Il semblerait que Socrate ait suivi les cours de Protagoras et qu'il disposait déjà lui-même d'une solide culture. On raconte aussi qu'il fréquentait la maison d'Aspasie. Cette belle milésienne était la concubine de Périclès. En femme de lettres, elle recevait elle-même des philosophes et elle dispensait des cours de rhétorique. Pour les historiens, ça signifie que les parents de Socrate s'étaient sans doute serré la ceinture pour lui permettre de suivre des cours de rhétorique et de mathématiques quand il était plus jeune. Maintenant, ça a porté ses fruits, il fréquente l'élite de la cité. Vers 30 ans, Socrate cesse son activité de sculpteur. L'élite athénienne méprise encore les artisans et les boutiquiers. Socrate sait qu'il doit donc arrêter d'exercer un métier manuel pour être pris au sérieux par l'aristocratie. À partir de là, on ne sait pas de quoi vit Socrate. Il n'a pas de terres qui lui permettent d'avoir une rente, mais il a assez d'argent pour vivre avec sa femme Xanthippe, ses enfants et au moins un esclave. Il est même assez riche pour être hoplite, c'est-à-dire fantassin lourd pendant la guerre du Péloponnèse. Or, à cette époque-là, chaque citoyen achète son équipement militaire lui-même et les hoplites viennent donc d'une sorte de classe moyenne, si vous me passez cette expression un peu anachronique. Tiens, parlons-en un peu de la guerre du Péloponnèse. Je vous disais qu'Athènes était prospère, mais la cité de Sparte veut aussi l'hégémonie sur la Grèce. Or, les Spartiates ont remarqué que plusieurs cités-États, comme Thasos ou Samos, commencent à prendre leur distance avec Athènes et ça se règle parfois sur le champ de bataille. Sparte profite donc de ce contexte pour attaquer une Athènes qui semble perdre petit à petit ses soutiens et son aura. La guerre commence en 431. Périclès ordonne aux Athéniens de se réfugier entre les longs murs, le couloir fortifié qui relie Athènes au port du Pirée. Ça implique l'abandon des terres aux raids spartiates, mais les Athéniens sont ravitaillés grâce à leur puissante flotte. Parce que oui, les Athéniens sont clairement les rois de la mer, mais Périclès sait qu'ils ne font pas le poids face aux fantassins de Sparte. Il refuse donc autant que possible une confrontation directe sur terre. Néanmoins, on ne peut pas se cacher éternellement entre les longs murs, et Socrate, qui a maintenant une quarantaine d'années, s'acquitte de ses obligations militaires comme hoplite à trois reprises entre 431 et 422. Socrate s'avère un combattant déterminé, fidèle à ses idéaux d'austérité. Il marche pieds nus dans la neige l'hiver, il reste des heures à réfléchir en plein soleil l'été. C'est déjà pour lui une sorte de méditation. Pendant ses années de service, Socrate se rapproche d'Alcibiade qui a une vingtaine d'années de moins que lui. Il lui sauve même la vie lors d'une bataille près de la ville de Potidée. Le jeune Alcibiade, parent de Périclès, est un jeune aristocrate promis à un grand avenir et pourtant, il est fasciné par la sérénité de Socrate, y compris dans les moments de tourmente. Socrate est impressionnant à cause de son intelligence supérieure, de son refus des conventions sociales, de sa manière d'apostropher les gens pour les pousser à réfléchir, parfois contre leur gré. Mais Socrate, c'est aussi un personnage sur le plan physique. Il est assez grand, costaud, avec une barbe et des cheveux très longs. Il entretient une apparence négligée, presque sale, pour mieux s'opposer aux hommes d'État trop coquets, plus occupés à se friser la barbe qu'à réfléchir au fonctionnement des institutions. Il est souvent vêtu d'un simple manteau drapé à la va-vite comme on se recouvre d'une couverture, et il est toujours pieds nus. Avec ses yeux à fleur de tête, ses grosses narines retroussées, sa bouche lipue et ses traits épais, il passe pour un homme laid, mais il s'en est fait une fierté. Bien qu'étant un soldat valeureux au service de sa patrie, Socrate observe les Athéniens avec dureté pendant cette guerre du Péloponnèse. Il n'approuve pas la stratégie de Périclès et il est horripilé par le manque de courage des siens. Il n'a de cesse de prôner l'esprit critique et de brocarder l'ambition démesurée de certains politiciens qui mènent la ville à sa perte. Périclès meurt en 429 et Athènes poursuit sa chute. La démocratie a reposé trop longtemps sur un seul homme et maintenant, la voilà perdue. Socrate observe son monde s'écrouler et tente d'éveiller les consciences. Il va essayer de s'opposer aux excès de ses citoyens en recherche d'un bouc émissaire. Mais celui qui ne court pas dans le sens de la foule passe généralement pour un fou dangereux. Pour découvrir comment Socrate va s'attirer la haine mortelle des Athéniens, je vous donne rendez-vous dans le second épisode que je lui ai consacré. À bientôt.